Actu SF, les podcasts.
Bonjour à toutes et à tous, nous allons donc commencer cette table ronde. Donc laissez-moi présenter nos invités aujourd'hui, donc sur le sujet du corps invisible. Donc nous avons avec nous pour aujourd'hui Laurent Vel, qui a écrit donc de SF, du fantastique depuis 2006 avec le, au début le Chant des psychopompes. Bonjour. Et qui a écrit donc deux séries chez Critique, donc avec Les Rats de poussière et Le Clan Costa, dont le dernier vient de sortir Par la mer et les nuages. Bonjour Laurent.
Bonjour.
Bonjour.
Voilà, merci de nous rejoindre.
Bonjour.
Nous avons suivi avec nous Xavier Mauméjean. Bonjour Xavier. Donc, qui a écrit, alors, je ne vais pas faire la liste entière des romans, cette table ronde ne fait qu'une heure, mais nous pouvons citer La Vénus anatomique, nous pouvons citer Je suis Légion, Kafka à Paris, La Société des faux visages, ainsi que des livres de jeunesse, dont le livre des super-pouvoirs. Nous avons ensuite Olivier Cotte. Bonjour Olivier.
Bonjour.
Du coup, alors, vous êtes aussi scénariste de BD, vous avez écrit, vous avez adapté L'ultime défi de Sherlock Holmes, vous avez écrit une formidable bande dessinée qui s'appelle Les Lendemains du Monde.
Absolument.
Et vous serez ici avec nous en tant aussi que spécialiste de cinéma, puisque votre livre sur le grand livre des techniques de cinéma d'animation vient de sortir chez Dunod. Alors du coup, comme la table ronde l'annonçait, nous pourrions parler donc du coup de l'anneau de Gisès, conte philosophique de Platon. Bon, nous en parlons un petit peu, mais il est vrai que pour une table ronde du dimanche matin à 10h30, partir sur Platon, ça me semblait un peu compliqué. Du coup, en littérature, par exemple, nous avons, tout le monde connaît ici, Le Seigneur des Anneaux, nous avons pas mal de choses. Par exemple, Xavier, est-ce que... Ah ben voilà. Vous avez donc... D'accord.
On a mis un peu de temps, mais le problème, ce n'est pas tellement de redevenir visible, c'est qu'il faut remettre son pantalon et tout.
Bah oui, c'est ça, oui, c'est tout. On parlera après. C'était un problème technique. Donc du coup, maintenant que vous êtes redevenu visible, alors c'est sympa l'invisibilité d'ailleurs, on s'y prête bien, mais il fait un peu froid
alors,
quand même.
Alors non, parce que je ne sais pas ce qui s'est passé, parce que je ne voyais rien, je ne voyais pas les autres non plus, mais il y en a un qui a essayé de s'asseoir sur mes genoux.
Ah oui.
Et je ne sais même pas qui c'est. il avait de la barbe, c'est tout ce que je sais.
Comme Laurent, après un copieux petit déjeuner, tant qu'il n'était pas habillé, on voyait passer des œufs au bacon au niveau de l'estomac, il n'avait pas encore digéré.
Exact.
Donc justement, en littérature, c'est un concept qui a été utilisé depuis l'Antiquité. À votre avis, justement, quelle est la signification de cette volonté d'être, dans la littérature, d'être invisible ?
Bah, tu t'évoquais, j'ai entendu l'anneau de Gyges de Platon dans La République. Tout de suite, chez Platon en tout cas, l'invisibilité pose la possibilité de faire ce qu'on veut. Il utilise l'invisibilité pour une allégorie morale, c'est « et si on pouvait faire ce que l'on veut impunément, sans être repéré, est-ce qu'on ferait le bien ?» Et Platon conclut que non, et c'est d'ailleurs le même canevas que va reprendre H.G. Wells avec Griffin dans L'homme invisible en 1895. Donc la première occurrence importante, mais c'est pareil chez Harry Potter, c'est la possibilité d'agir plus largement que la morale.
Laurent ?
Oui, pareil. Et puis, c'est un truc de gosse aussi, l'invisibilité. Quand on demande à un gamin le premier super pouvoir qu'il aimerait avoir, c'est soit voler, soit être invisible, en fait. Et ça correspond un petit peu à la même chose, parce que survoler, c'est aussi l'idée de on est en haut, on voit tout et personne ne nous voit vraiment, quoi. Donc, ça revient à quelque chose d'assez ancien dans l'enfance.
Il y a quelques points qui m'ont toujours amusé dans le concept d'invisibilité. C'est que quand on lit les romans, quand on prend connaissance des fictions, on est obligé à certains moments en fait d'être tolérant par rapport à des problématiques techniques. Alors, bon, Wells avait assez bien imaginé que, par exemple, le non-voyant le repérait. Ça, c'est très, très malin dans le roman. Maintenant, ceci dit, en imaginant qu'effectivement, comme tout à l'heure, moi, j'étais tout nu, hein, puisque bon, il fallait vraiment qu'on ne me voie pas, c'est certain qu'on va quand même avoir les pieds très sales au bout d'un moment. Et donc, j'ai toujours essayé d'imaginer un résultat visuel de ce que ça pourrait donner, ou alors, évidemment, la pluie, les intempéries, le brouillard. Et puis, un truc aussi assez bête. Un jour, il y a quelqu'un qui a abordé Herbert George Wells pour lui dire, écoutez, il y a un problème dans votre roman, L'homme invisible, c'est que normalement, il devrait être complètement aveugle. Et c'est vrai que s'il n'y a pas de corps caverneux avec une... et de caméra obscura au niveau du fonctionnement de l'œil, l'image ne peut pas se former sur la rétine puisqu'elle-même est invisible. Et donc, du coup, effectivement, le personnage devrait être totalement aveugle. Et Wells était un peu gêné, il dit, alors oui, j'y avais pensé, mais ça posait de gros problèmes, donc j'ai préféré faire semblant de rien. Et ben oui, parce qu'effectivement, il y a un moment où, de toute façon, il y a un certain nombre de problématiques que l'on est obligé d'évacuer.
Et justement, il y a un très, très, très bon roman de Harry Sand qui s'appelle Journal d'un homme invisible, qui est adapté au cinéma par John Carpenter et qui bâtit une grande partie de son scénario sur les difficultés justement qu'on rencontre l'homme invisible. Encore Nicolas Hoé, le héros, a la chance d'avoir des vêtements qui sont devenus invisibles en même temps que lui, mais comme fait remarquer Olivier, si on est simplement soi invisible, en fait, très rapidement, on se rendait compte que les inconvénients sont supérieurs aux avantages. Il y a cette histoire de digestion.
Et puis, il est quand même plus facile d'être, dans ce cas-là, invisible, je sais pas, à Marseille, qu'à Lille, hein, par exemple.
Oui,
parce
voilà.
Que bon, être au mois de décembre, l'invisibilité, ça ne doit pas être très pratique dans ce cas-là, quand même. Il y avait une nouvelle aussi, moi je me souviens d'une nouvelle de Frederick Brown, où il avait exploré trois pouvoirs, où il y en avait une qui était sur l'invisibilité. Ça se passait, donc l'homme voulait entrer dans un harem, il était devenu invisible, il voulait rentrer dans un harem. Du coup, il rentre dedans, il voit toutes les femmes comme dans un harem, bon, je pars, et puis c'est une potion qui dure 12 heures, je crois, c'est pas de bol. Bon, et puis après, il se dit, bon, allez, demain j'y retourne, et puis j'en profite, hein, puisque dans la nuit, elle verra pas, elle pensera que c'est le sultan. On verra pas. Et 12 heures, logiquement, ça suffit. Hein. 12 minutes aurait suffi, d'ailleurs. Mais donc, il rentre et la fille hurle parce qu'évidemment, dans les harems, ce n'est pas le sultan qui se déplace, c'est la femme qu'on amène. Et là, la phrase, je me rappelle, de Frederick Brown qui dit, et là, le nom de la personne, se rendit compte que l'invisibilité ne servait strictement à rien dans le noir absolu. Alors, justement, dans la bande dessinée aussi, il y a des choses comme ça qui... qu'on a utilisé, la bande dessinée, le premier personnage auquel on pense pour l'invisibilité, c'est Jenny Storm, c'est la femme invisible. Et donc, du coup, là, elle s'en sert
pour voir. Storm.
Sous, oui. C'est un peu vieillot. J'ai un peu trop vieilli. Et qui, elle, du coup, s'en sert pour faire le bien. Alors, est-ce que, du coup, c'est la femme qui fait le bien, l'homme qui fait le mal? Est-ce qu'il y a, à votre avis, un sujet là-dessus? Non? Alors pourquoi dans la bande?
C'est très intéressant. Non, par contre, c'est vrai que là, puisque tu parlais du harem, il y a une utilisation à peu près similaire de l'invisibilité dans Alan Moore, la Ligue des Gentlemen Extraordinaires, puisqu'il reprend un certain nombre de personnages fictionnels historiques, si je puis dire.
Oui.
Il y a notamment l'homme invisible que l'on repère chez les nonnes, où elles pensent tout à coup trouver Dieu.
Mais c'est, oui. c'est pas dans le film, ça.
Non. Non, non, c'est dans la bande.
Et du coup, dans la littérature, l'utilisation de l'appareil, on parlait de la cape d'invisibilité d'Harry Potter, c'est logiquement une des reliques de la... Alors, je ne voudrais pas spoiler le bouquin pour ceux qui ne l'auraient pas lu. Mais en effet, c'est à la base un outil plutôt maléfique dont on se sert pour... Harry Potter se sert pour essayer de combattre le mal. dans la littérature, c'est souvent le cas aussi. L'objet ou l'idée de l'invisibilité est souvent détournée. C'est soit une chose qui était pour faire le mal, dont la personne sait pour faire le bien, soit l'inverse, une expérience scientifique qui était plutôt une bonne chose, qu'on sert pour faire le mal.
Dans Harry Potter, il a besoin. C'est la seule formule magique qu'il ait besoin d'utiliser sur un objet. Alors que d'habitude, ils prononcent des trucs, ils ont des formules et ils transforment quelqu'un en statue de sel ou je sais pas quoi, un truc agréable comme ça. Mais la cape d'invisibilité, c'est le seul gadget. Il n'y a pas une épée magique, un truc, un machin. C'est quand même le truc qu'il utilise directement. C'est ça, hormis la bagnole qui vole. De son copain, mais voilà quoi, c'est pas lui-même qui est invisible, c'est la cape qui est c'est comme si on avait un écran, un truc qui fasse qu'on devient invisible, comme dans la SF quand on appuie sur un bouton, plaf, on est téléporté ailleurs quoi. Donc c'est juste un gadget. Moi je trouve pas que ce soit de l'invisibilité dans Harry Potter. Perso, bon, j'ai pas fait une analyse d'Harry Potter parce que j'en ai vu qu'un et je me suis endormi avant la fin. Donc voilà, mais c'était celui-là. Voilà.
Mais c'est vrai que c'est intéressant parce que l'invisibilité existe en dehors de la science-fiction, notamment dans le fantastique. On a eu très souvent des potions d'invisibilité qui ont été utilisées, c'est-à-dire en fait un moyen technique, herboriste, on va dire, pour modifier le comportement du corps et son rapport à la lumière. Et dans le cadre de Harry Potter, on se retrouve avec l'utilisation effectivement d'un gadget matériel, alors que finalement ils ont aussi des cours de potions, des cours de sorcellerie, enfin de maléfices, d'incantations. Et là, tout à coup, tac, c'est un outil concret qui est utilisé.
Parce qu'il y a aussi il y a un gros truc sur l'invisibilité dans Predator, par exemple. La créature qui vient de l'espace et qui a un camouflage. Là, c'est encore un gadget, c'est un camouflage de combat, machin. Mais on le voit parce que, par transparence, on le devine. C'était assez bien fait. D'ailleurs, il passe dans les feuillages et tout ça, et on voit qu'il se passe un truc. Et comme tu disais tout à l'heure, les inconvénients d'être invisible, ou c'est toi peut-être parce qu'on voyait mon petit déjeuner qui passait. D'ailleurs, c'était des saucisses, hein, je précise. Donc, on voyait mon petit déjeuner qui passait. Là, à un moment donné, Schwarzenegger, parce que bon, c'est quand même lui, il est quand même fort, hein, il blesse le machin. Et il a une espèce de sang jaune ou vert, je ne sais plus, qui coule. Et à ce moment-là, il cesse d'être invisible parce que partout où il va, il laisse sa trace de sang. Donc après, chez lui, c'est logique. Ce n'est pas comme chez l'homme invisible qui y voit alors qu'il ne devrait pas voir. Chez lui, c'est logique. C'est un gadget de camouflage. Donc on se retrouve avec l'inconvénient de ça, quoi. Parce que si on voit son sang quand il est blessé, pourquoi on ne voit pas son sang à l'intérieur de lui ? En fait, il est là, son sang, quand même.
Non, mais il y a même au-delà, j'en parlais dans le cours sur le monstre, le sang effectivement de Predator est d'un vert très phosphorescent, enfin bon, et pour toutes les idées de symbolique du vert, parce qu'en fait on est vraiment à l'opposé du rouge justement, donc c'est vraiment pour mettre en scène un être qui soit totalement opposé biologiquement à nous, mais ceci dit, quand il ouvre la bouche, on sent bien que l'intérieur de la bouche est rouge. Or, s'il est rouge, c'est parce que bon, la peau, finalement, qui est assez fine, laisse voir la couleur du fluide qui baigne les cellules. Et donc, ça signifie qu'en fait, vu de sa bouche, son sang est rouge. Par contre, quand il saigne à l'extérieur, à la surface, là, ça devient vert. En fait, ils avaient fait des essais en essayant d'être cohérent et d'avoir un sang qui soit vert aussi partout, y compris ce que l'on peut voir dans la bouche. Puis ils s'étaient aperçus que c'était totalement ridicule, ça ne fonctionnait pas, ça ne faisait pas peur. Un bon carnivore, ça doit être rouge dans la gueule, quoi, c'est pas vert. Et du coup, là aussi, c'est pas logique, mais ils ont fait abstraction, parce que bon, il y a un moment, la mise en scène doit primer finalement sur la logique fictionnelle.
C'est un film d'action, hein, c'est pas un documentaire scientifique non plus. Hein,
donc, non plus,
voilà,
non.
Voilà. Mais il y a le sang vert, en fait, c'est un faux problème, parce que le sang qu'on a en nous, il est rouge, théoriquement. Et quand on saigne, il sèche et au bout d'un moment, il devient brun. Donc il change bien de couleur lui aussi. Donc si ça se trouve, le sang du prédateur, juste au contact de l'atmosphère terrestre, plaf, il devient vert. Puisqu'il est à l'extérieur de son corps, il est plus...
Mais je parlais du sang, en fait, aussi, parce que dans le roman de Wells, une des axes de recherche du personnage de Griffin, c'est justement comment rendre le sang transparent, parce que finalement, pour lui, c'est ça qui fait que l'on est, que l'on, on est perceptible visuellement.
Il y avait aussi dans le cinéma, il y avait une adaptation d'un film, je serais l'homme sans ombre, je crois que ça s'appelait aussi, et où là c'était la pluie le problème.
C'était Verhoeven, je crois.
C'était Verhoeven, ouais. C'était la pluie le problème, parce que dès qu'il y a le, on devinait dès qu'il pleuvait, on devinait le corps de la personne sur les gouttes de pluie. Donc finalement, on va dire que l'invisibilité, au-delà de la possibilité ou non technique, pose assez peu de pas mal de problèmes quand même.
L'invisibilité, ça n'empêche pas les autres sens de fonctionner. C'est-à-dire que vous êtes invisible, vous marchez, vous bousculez la table, tout le monde l'entend ça.
Si vous avez mangé un curry aux oignons juste à la, voilà, juste la veille, c'est
le micro
aussi.
Qui se promène et la saucisse aussi. Donc ça aussi, c'est encore la saucisse, elle est dedans. Donc théoriquement, peut-être on la voit pas comme le sang, etc. Mais tous les autres sens sont là. C'est-à-dire que même la vue, vous êtes invisible, mais on va voir quelqu'un, cette chaise pliée quand quelqu'un va s'asseoir dessus qu'on ne voit pas. Ou la porte bougée, ou le rideau qui est déplacé, ou même quand vous êtes dans une pièce, tout seul dans une pièce, et si quelqu'un se déplaçait invisible, vous le sentiriez, en fait, parce qu'il y a un déplacement d'air, parce que quelque chose a changé dans la pièce sans savoir ce que c'est. Les lattes du parquet qui grincent, c'est très difficile de se déplacer en faisant absolument aucun bruit. Mais même pieds nus, c'est quasiment impossible à faire, ça.
Accessoirement, il ne faut pas qu'il ait envie d'aller aux toilettes.
Oui, voilà. Et on serait.
Merci pour l'image du dimanche matin.
Et puis on est visible pour tous les animaux. Un chien qui entend 50 fois mieux que nous, un chat qui entend 50 fois. Voilà. On ne peut pas tromper l'essence des beaucoup plus aiguisés des animaux.
Mais il est vrai que dans le. On parlait d'invisibilité, il y a l'invisibilité du corps humain. Mais aussi, est-ce qu'aujourd'hui, l'humanité a toujours, à un moment donné, voulu explorer cette recherche d'invisibilité comme une chose à avoir, finalement, ou une malédiction. Aujourd'hui, la peur des gens, pour beaucoup d'entre eux, c'est d'être invisible, justement. C'est-à-dire que l'invisibilité est passée par un côté où, aujourd'hui, tout le monde veut être visible. La puissance des réseaux sociaux, finalement, c'est ça.
C'est l'inverse. De l'instinct du gamin qui aimerait bien, comme super pouvoir, être invisible. Ils ont encore ça maintenant, mais dès qu'ils ont un téléphone portable, c'est fini.
Ils veulent. Ils jouent plus à cache-cache, en fait. Hein. C'est parce que finalement, cache-cache, c'est ça. C'est je me cache, tu ne me vois pas.
Mais,
voilà.
Mais la visibilité, la survisibilité des réseaux sociaux, ça va aussi chercher au-delà. C'est-à-dire que les gens, ils sont visibles, mais ils se cachent derrière un pseudo. Ils ont leur photo, mais c'est la meilleure photo d'eux, ou c'est je sais pas quoi, la photo de leur chien ou de leur perroquet. Mais ils se cachent derrière une identité qui est finalement pas tellement la leur, quoi.
Xavier ?
Oui, alors justement sur l'invisibilité sociale, il y a deux romans. Il y en a un que tout le monde connaît, c'est Fight Club avec de Chuck Palahniuk. Et il y a un roman qui a peut-être pâti un petit peu de la parution de Fight Club parce qu'ils sont pratiquement contemporains, alors qu'il est excellent. C'est L'Ignoré de Bensley Little. C'est un type, un jour, il vit avec sa copine, il se rend compte que tout ce qu'il aime en disque, tout ce qu'il aime en film, tout ce qu'il aime en série télé, c'est ce que aime exactement la moyenne. Donc il va à son boulot un jour et il se rend compte que quoi qu'il fasse en bien ou en mal, ça tombe dans la moyenne. Donc à un moment il déconne, mais ça fait partie des conneries qui arrivent en moyenne dans une boîte. Et donc il se rend compte qu'il est complètement invisible socialement. Et il va errer dans les rues, je crois que c'est de Chicago, et il va se rendre compte, parce qu'ils ont une sorte d'instinct pour se reconnaître entre eux, qu'il existe une communauté d'invisibles. Et donc c'est assez proche de Fight Club en plus. Et donc ils vont organiser des attentats, etc., mais qui n'attirent pas l'attention de la presse parce que ça tombe dans la moyenne à peu près des attentats dans l'année. Et il y a une légende urbaine qui circule dans la communauté des invisibles sociaux, c'est qu'il existerait une ville aux États-Unis d'ignorés, d'invisibles. Et donc, ils partent à sa recherche. Donc, ça devient une road story qui est vraiment très bien parce que personne ne fait attention à eux. Et un jour, ils arrivent dans cette ville. Et en fait, cette ville, elle existe. Et elle est financée par Kellogg's, Coca-Cola, McDonald's, etc. pour tester des produits moyens qui plairont à toute l'Amérique.
C'est excellent, ça.
Regarde, ça.
J'avais vu une... Je crois que c'est une BD. Hein. Tu me diras si je me trompe. Je pense que c'est une BD. Où y a un administratif quelconque dans une préfecture qui fait une tâche sur une carte d'état-major. Et du coup, il y a un bled qui n'existe plus sur les cartes. Et les gens, ils restent à vivre au 19e siècle, ou je ne sais plus quel siècle c'est. Mais ouais, au 19e siècle, et en fait, c'est, je ne sais plus qui le trouve, si c'est un gars qui s'est perdu, style David Vincent, quoi. Voilà, il s'est perdu, puis il tombe là-dedans, il arrive avec sa bagnole, les mecs, ils ont des calèches et tout. Enfin, c'est complètement... Je pense que c'est une BD, et je pense que ça paraissait en... Ça paraissait, j'ai lu ça il y a très très longtemps, ça paraissait, je crois, genre dans Pilote, quoi, un truc comme ça. Et c'était feuilletonné, quoi, toutes les, je ne sais plus, la fréquence de Pilote, si c'était hebdo ou mensuel, je ne me rappelle plus, mensuel peut-être. Et ouais, j'avais trouvé ça, c'était super comme idée. Le fait que la carte d'état-major, bah, c'est un peu la mouche de Brésil, quoi, sur le document, quoi. Et personne n'a un super pouvoir, n'est rien du tout, mais il n'y a plus personne ne communique, plus personne n'écrit dans ce bled, plus voilà. Et ils restent avec leur calèche et leur truc. C'était assez sympa comme idée.
Et justement, sur l'invisibilité du corps social, là, il y a des tonnes de choses à dire aussi. Parce que quand on regarde la télévision, quand on regarde, il y a des gens qui disparaissent comme ça. Est-ce que l'invisibilité, est-ce qu'aujourd'hui, finalement, elle n'existe pas réellement avec la façon dont une partie de la population, une partie des gens, n'est juste pas visible, on ne la voit pas. Je pense, par exemple, quand on arrive à Paris, porte de Clignancourt, machin, où il y a les réfugiés, les centaines de camps de réfugiés dans nous, que les gens regardent, passent sans s'en apercevoir. Est-ce que finalement, aujourd'hui, l'invisibilité, elle passe pas aussi par ça, par un...
Mais ça, les gens, c'est pas qu'ils sont invisibles, c'est qu'on les regarde pas. C'est-à-dire que c'est le principe de la réfugiée ou je sais pas quelle origine, mais est devant la porte d'un supermarché, assise à côté de la porte d'un supermarché avec une petite écuelle ou un gobelet en plastique devant elle et deux ou trois gosses mais elle n'est pas invisible en tant que telle, on peut buter dedans si on ne fait pas gaffe.
Quelqu'un invisible, on bute dedans, enfin, on ne l'a pas non plus.
Oui, c'est... tout à fait. Mais on regarde ailleurs, en fait. Il y a sans doute plusieurs raisons. Le pourquoi on regarde ailleurs, parce qu'on est gêné que ça puisse exister, parce qu'on ne veut surtout pas se faire taper 10 balles, et parce qu'on se sent coupable, ou parce que, pour plein de raisons, si vous vous mettez dans ce coin, moi je l'ai fait, hein, il y a un... On ne peut pas citer de marque, donc je ne vais pas le faire, mais par exemple Carrefour Market. Bon. Il y a régulièrement une personne qui est assise là. Et par hasard, une fois, je sortais de ce Carrefour Market et je ne sais pas si je remettais mon portefeuille en place ou j'en sais rien. Donc je suis resté un moment là, et machinalement, je la regardais, je faisais mon truc et je me suis rendu compte en regardant les gens qui passaient que les gens ne la regardaient pas volontairement. Il y avait un effort conscient de pas l'avoir. C'est dans, comme voilà.
Dans The Fisher King, le film de Terry Gilliam, à un moment, il y a après la déchéance du présentateur radio qui a fait une bourde énorme, il se retrouve clochard et il y a une scène où il se retrouve avec un autre clochard qui ils sont tous les deux assis et puis il y a dans un hall de gare quelqu'un qui leur met une pièce et puis le personnage dit mais il ne m'a même pas regardé. Et l'autre, de lui dire, il a payé, il t'a payé pour ne pas avoir à te regarder. J'ai trouvé que cette réplique était extraordinaire.
Puis ça doit être probablement un clin d'œil au poker. En plus, on paye pour voir. Il y a un jeu de mots sur l'opposition.
Oui, du coup, finalement, l'invisibilité, c'est... Logiquement, la visibilité, c'est le photon qui se réfléchit sur de la matière et qui est renvoyé à notre rétine. C'est notre cerveau, finalement, qui analyse cette information.
C'est par l'entremise de la lumière.
C'est ça.
Et ça, c'est la base de toute façon toutes les recherches techniques qui ont lieu.
Et du coup, notre cerveau, là, décide socialement de ne pas prendre cette information en compte. C'est fort, quand même.
Ouais, enfin, c'est le cerveau social, ça.
Cerveau social, oui, tout à fait.
C'est ça, c'est une volonté consciente de ne pas le faire. Parce que je suis sûr que c'est une volonté consciente. C'est pas un truc, c'est pas un réflexe. C'est pas quand on monte un escalier, on pense pas à lever la jambe, pourtant on le fait. Voilà, il y a des trucs qu'on fait comme ça qui sont sans y réfléchir. Là, on y réfléchit, on y pense. Vous allez où là-bas?
Ils auraient dû prendre leur cape avant.
Vous auriez dû mettre la cape, là. Hein.
Mais du coup,
ça fera trois bières en haut. Merci.
Je pense aussi au roman de Chalamet-Ville, par exemple. On parlait de visibilité, invisibilité ou de non-compréhension. Dans City and the City, donc, est-ce que vous l'avez lu ? Alors, donc, dans ce roman-là, je sais pas, c'est un peu compliqué à expliquer. Il y a d'abord une très bonne série de la BBC, dont je n'ai jamais vu le dernier épisode, qui a été faite aussi, d'ailleurs, sur City and the City. Je te dirai après comment, justement, ils adaptent ça. Puisqu'on a deux villes, l'une dans l'autre, et on comprend que, dans l'une dans l'autre, c'est-à-dire que, grosso modo, ici, c'est la ville A, et on va dire que la rue d'en face, c'est la ville B.
Non, non, non.
Le quartier.
Ici, c'est la ville A, et ouais. Ici, c'est la ville B.
C'est ça.
Très fort,
oui.
Superposé.
C'est ça, superposé. Et donc, du coup, les gens, par des connaissances sociales, des vêtements, des choses architecturales, ont appris à ne pas voir et à ne pas regarder, à mettre invisible la ville, la moitié de la ville dans laquelle eux-mêmes vivent. Et ils appellent ça, je crois que ça avait été traduit par une évision, si mes souvenirs sont exacts. Donc on évise comme ça, c'est-à-dire qu'on on se force là réellement, mais c'est-à-dire que là, quand on parlait tout à l'heure de la personne du SDF qu'on ne veut pas voir, là, c'est une obligation. C'est-à-dire que si tu le fais, si tu regardes une personne de la ville d'à côté, tu as une espèce de police politique qui se pointe, qui t'embarque, tu ne sais pas trop ce que c'est. Et voilà, donc là, c'était une façon de visible, invisible, de choses qu'on voit ou qu'on ne voit pas. Dans la littérature, c'est quand même des choses qui sont mélangées, en fait. L'invisibilité, le pouvoir, la puissance, ce sont des choses qui sont quand même...
Dans la littérature des années 60-70, par exemple, peut-être même un petit peu avant, dans la SF pure et dure, il y avait les histoires des dimensions. Donc, et cette fameuse théorie qui disait qu'on est ici tous là, mais il y a une infinité d'autres dimensions, avec une infinité soit d'autres vous-même, soit d'autres gens qui sont là et qui font autre chose. Donc, et ça, on ne les voit pas, du coup. Donc il y avait un bouquin où le gars, en fait, commence à voir les autres dimensions. Donc ça devient hyper perturbant parce qu'il parle à plusieurs personnes à la fois qui répondent des trucs qui n'ont rien à voir. Enfin, ça devient... Et donc c'est lui qui est considéré comme fou. Donc, je ne sais plus de qui c'est, mais c'est un truc un petit peu obscur des années 70, je pense. Ouais. Et ça, donc, c'est une autre forme d'invisibilité. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un d'autre assis sur mon fauteuil et qui parle d'autre chose dans une autre dimension. J'ai bon, là ?
Oui. Exact. Mais alors... On parlait du cinéma tout à l'heure, ça a dû être des... Enfin, quand on réalise un film invisible, ou avec un nom invisible, genre, bon, Méliès...
On économise un acteur, déjà.
Ouais.
Ça fait un salaire de moins. Bah, hein.
Mais Méliès, on a réalisé très tôt. Il a réalisé trois films, trois courts-métrages, hein, avec des personnages invisibles. Segundo de Chomón, le réalisateur qui a pris espagnol au départ, mais qui a travaillé en fait pour Pathé en France, qui a également été un de ces illusionnistes du cinéma du début du siècle, c'est-à-dire pas tant réalisateur que finalement homme de scène, mais utilisant des trucs de scène et des nouveaux trucs aussi de caméra pour faire des scénettes courtes. Souvent coloré. En plus, Segundo de Chomón avait commencé en créant une société de coloriage de films avec des pochoirs. Bon, c'était son premier boulot. Ils se sont très rapidement intéressés à la mise en scène de personnages invisibles parce qu'en fait, c'était dans une certaine logique dramatique de spectacle, de scène. Bon, finalement, on n'est pas très très loin des tours de prestidigitation avec les personnages qui disparaissent au fond de la boîte par un effet de miroir, etc. Bon, c'est la même philosophie. Après, il y a eu d'autres réalisateurs. Je pense notamment à un réalisateur anglais, Stuart Blackton, qui a réalisé un certain nombre de films à trucage, mais notamment, alors là, par contre, faisant intervenir également l'animation, donc le stop motion. Alors, il y a notamment The Haunted Hotel, l'hôtel hanté, où les... Les chaussures se lassent toutes seules. Bon, ça, c'est du, vraiment du trick film, du stop motion. Ou alors, les objets bougent tout seuls. Alors, parfois, c'est juste un coup de câble qui est utilisé. Et ces films qui, bon, évidemment, avec le recul, paraissent extrêmement naïfs, fascinaient vraiment. Mais là, on est vraiment dans les années 1906, 7, 8. Mais très rapidement, le cinéma s'est intéressé à ça parce que finalement, on pouvait le faire sur scène, mais quand même de manière moins... moins installé, moins évident à lire, pour la bonne raison que sur scène, l'on est à une certaine distance, alors que le cinéma permet d'avoir le gros plan sur les chaussures qui vont se déplacer, qui vont vivre, etc. Après, bon, il y a en fait beaucoup de films anciens, et puis dès qu'on a pu vraiment arriver à des formats beaucoup plus longs, bah, on a très rapidement mis en place des personnages. Je veux dire, la première version de L'Homme Invisible, il y en a bon, déjà dans les années 20 de Wells, hein, j'entends bien. Puis après, bon, il y a évidemment celle classique de la Universal au tout début des années 30, qui d'ailleurs vaut le coup d'être revue. Hein, elle est vraiment bien interprétée, bien mise en scène. La psychologie du personnage, qui est quand même... quand même un peu une ordure, soyons clairs. Oui, c'est en noir et blanc, oui. Et bien travaillé. Et puis, bon, les trucages pour l'époque sont plutôt assez bien réalisés. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas tellement d'aspects spectaculaires. On raconte l'histoire de façon assez neutre, j'irais dire. Et évidemment, comme d'habitude... parce que sinon, il y a le problème de mettre en scène un personnage que l'on ne voit pas dans le cinéma. C'est très embêtant parce que le cinéma, c'est quand même d'abord et avant tout un art visuel. On a eu quand même 35 ans d'histoire de cinéma muet où on ne travaillait qu'avec l'image. Donc, soit on le met à moitié habillé ou à moitié déshabillé, c'est selon, de manière à ce que, bon, il y a un manque, par exemple, au niveau du visage, des mains, enfin, de tout ce qui est organique et qui dépasse les vêtements. Soit on révèle sa présence par le biais de son interaction avec l'environnement, c'est-à-dire effectivement il va déplacer un objet, donc c'est l'objet lui-même tout simplement qui va se déplacer tout seul, mais comme on est dans le flux narratif et qu'on sait de quoi il s'agit, on comprend évidemment ce qu'il y a derrière l'apparence.
Au début du siècle, pour refaire référence au premier film où tu dis il déplaçait parfois avec un fil, parfois en stop motion, ça vient aussi, on sortait, je pense, parce qu'on sortait d'une grande époque de spiritisme. C'est-à-dire qu'il y avait eu, tous les Anglais faisaient beaucoup ça, on tournait des tables, on appelait les revenants, etc. Donc c'est pareil, il y avait une interaction avec des objets comme il y aurait un trucage de film.
Ce qu'on appelait le monde invisible d'ailleurs.
Oui, voilà, c'est ça. Les gens parlaient aux invisibles, aux esprits, aux trucs comme ça. Donc quand les premiers films ont pu... Quand Méliès a dû se rendre compte par hasard qu'il avait mis une bouteille là et puis ils avaient shooté une scène, puis quelqu'un l'avait déplacé sans qu'il le voie, puis après il regarde le film et on voit la bouteille se déplacer sur le film. Donc il s'est dit, oh putain, il y a un filon dans ce truc-là, et il est parti dans son...
Méliès, il disait pas, oh putain, non.
C'était encore plus...
Alors comme si c'était dans des films muets, on
sait que c'était encore plus
beau. Moi non plus, je le dis jamais.
C'était encore plus beau, il était en train de filmer la place de la Concorde, et puis la caméra s'est en... Non, c'est... Mais la caméra s'est enrayée, alors le temps qu'il la remette en route, parce que les mécanismes à l'époque, il y a un autobus qui a été remplacé par un corbillard. C'est beau, hein, c'est très surréaliste comme idée, mais ça fonctionne très très bien.
Et alors là, il s'est dit, mais
il y a quelque chose.
Il a dit sacre bleu ou ventre saint gris. Voilà.
Mais peut-être aussi, alors là par contre, je pose une question, parce que peut-être si vous le savez, est-ce que les magiciens d'avant, les Houdini, les choses comme ça, est-ce qu'ils avaient, ils se font disparaître? Donc,
Houdini était un escapologue, n'était pas un magicien.
Désolé.
On se calme avec
donc,
la technologie.
Voilà, c'est bien, je vais poser la question. Est-ce que les précédateurs, les magiciens, utilisaient aussi cette image-là du corps qui disparaît est-ce que c'était plutôt une volonté d'être invisible ou de disparition, là, du coup? Ah, parce que vous avez...
Bah oui.
Non, mais voilà.
Pareil.
C'était les techniques qu'ils utilisaient.
C'est vieux, tout le monde le sait.
Tout le monde le sait. Mais du coup,
il y a les vampires aussi. On n'a pas parlé des vampires, mais le vampire, ils disparaissent, ils apparaissent.
Les espions.
Les espions.
C'est curieux, voilà. Les invisibles, c'est jamais l'homme invisible n'est jamais utilisé dans des thrillers d'espionnage.
Alors si, il y a une série télé
avec David McCallum en 1975, mais c'est à ça. Part ça, c'est assez rare en fait.
Oui, parce que dans la série télé, justement, c'était celle-là où il avait ses vêtements invisibles et où du coup il enlevait son espèce de maquillage et il mettait ses vêtements invisibles pour aller jouer.
Il y a eu même ça dans deux séries télé des années 60 et 70. Et alors, il y avait celle effectivement avec le maquillage qu'il devait enlever très très rapidement. Et puis il y en avait une autre où, là encore une fois, il y avait un espion au service du gouvernement, qui était d'ailleurs le fruit d'une expérience, etc. Et on lui permettait, ça c'est un truc récurrent d'ailleurs, il se mettait au service du gouvernement de manière à pouvoir poursuivre ses expériences pour retrouver sa visibilité, ce qui est un truc très classique. Oui, mais lui, il utilisait une montre qui lui donnait un temps donné d'invisibilité quotidien. Mais dans ces deux cas, si ma mémoire est bonne, il était surtout obsédé par retrouver, exactement comme dans le roman de Wells d'ailleurs, par retrouver la formule inverse qui pouvait lui redonner de sa normalité.
Ce qui est marrant, c'est que, ça rejoint le début de notre conversation, les auteurs, je parle en littérature, ont dû se rendre compte assez vite que c'était une fausse bonne idée dans un thriller d'espionnage parce que ça entraînait plus d'inconvénients que d'avantages en fait.
Oui, puis quelque part, il faut qu'il y ait une difficulté dans l'espionnage. Sinon, il n'y a pas de tension dramatique. Et si le type, on ne le voit pas, il rentre, il prend le doc, il se barre, ça y est, générique de fin. Bon, ce n'est pas très gratifiant pour le spectateur.
Ouais, puis il faut réadapter en permanence, parce que si on regarde les films d'espionnage de l'époque, que ce soit L'Homme Invisible ou autre chose, il y a une grosse partie des ressorts de suspense, des ressorts narratifs, est basée sur le fait que les gens ne peuvent pas communiquer entre eux instantanément. Maintenant, on sort son smartphone et on sait où Pierre-Paul Jacques se trouve, quoi.
Alors, il y avait quand même... si, on peut quand même parler de...
Et même l'homme invisible, s'il a un smartphone sur lui, il est piégé. Ah ouais, on sait où il est.
Justement, c'est l'invisibilité. Alors, avant les réseaux sociaux, il y avait quand même Agardal qui avait imaginé avec transparence cette espionne qui n'apparaissait jamais. En fait, c'était justement un...
Il y a Roland Wagner aussi.
Roland Wagner, oui, avec, où il fallait un chapeau, pour, sinon personne ne... Tout le monde l'oubliait.
Transparent, oui. Mais ce n'était pas le seul. C'était, c'était une catégorie de gens, comme tout à l'heure, là, on parlait de la ville, des moyens. C'était une catégorie de gens qui étaient transparents. C'était pas une faculté, c'était plutôt une malédiction, sauf que lui était détective dans les œuvres de Roland. Donc, du coup, ça aidait bien. Et pour qu'on le voit, pour qu'il pose une question à quelqu'un, pour qu'il se souvienne de lui, il fallait qu'il ait un Borsalino vert fluo, quoi. Sinon, ça ne le faisait pas, quoi.
Il y a un film, le titre m'échappe tout de suite, là, avec des super-héros tout à fait ordinaires, enfin, qui n'ont rien. Enfin, il y a un lanceur de fourchettes. Elle joue avec une grosse boule de bowling dans laquelle il y a la tête de son père qui est incrustée. Alors, il y a un des personnages dedans qui est formidable. Il a le pouvoir de se rendre invisible, mais à condition que personne ne le regarde. Et alors... Quand il balance ça aux autres en disant mais il faut que vous m'engagiez parce que c'est vraiment extraordinaire, je vous jure, ils se foutent de sa gueule évidemment. Et on s'aperçoit, le scénario est assez bien écrit, on s'aperçoit qu'en fait ça fonctionne. Ça fonctionne. À un moment, il doit échapper en fait à une caméra de surveillance pour éviter de se faire désintégrer ou un truc comme ça, enfin un système de sécurité. Et donc il doit évidemment enlever tous ses vêtements. Donc il demande aux autres de se retourner parce qu'il n'a pas du tout envie de se mettre nu devant ses petits camarades. Et effectivement, il passe, mais nous on ne le voit pas non plus en tant que spectateur, c'est ça qui est très frustrant et très bien fait. Il passe les systèmes de sécurité, il déverrouille la porte et puis il dit ça y est, la porte est ouverte, et il se retourne et là c'est là quand même qu'il le voit à poil. Mais effectivement, il a réussi à se mettre, à pouvoir être invisible à condition que personne ne le regarde.
Ah, il y a aussi visible. Celui d'Astérix.
Pardon ?
Dans Astérix et Cléopâtre, il y a l'agent secrète 006 ou je ne sais pas quoi, qui est Six même d'ailleurs, qui fait voilà, là vous me voyez. Là, vous ne me voyez plus. Là, vous me voyez. Là, vous ne me voyez plus. Elle est forte. Ah oui.
L'invisibilité, à condition qu'on regarde pas, c'est une véritable affection. C'est ce qu'on appelle la normopathie. Il y a des gens... Franz Kafka était normopathe, par exemple. Et la normopathie, ça consiste à vouloir imiter la norme pour devenir invisible. Mais l'effet obtenu, en réalité, c'est que tout le monde remarque. Parce que, imaginons que pour passer invisible, j'essaie d'imiter Roland, eh ben, tout le monde remarquera qu'une sorte de Roland, hein, de Laurent, la fatigue de...
Où est-ce qu'ils vont en venir?
Si vous êtes normopathe dyslexique, en plus, ça devient grave. Et par exemple, le grand neurologue Oliver Sacks raconte qu'un jour, il se baladait à New York dans la 5e avenue, à l'heure du déjeuner. Donc, 5e avenue, il y a un flux constant de gens. Et son œil de professionnel remarque, tac, quelqu'un. Et donc, il commence à le suivre. Et la personne, en fait, chaque fois qu'elle croisait quelqu'un dans le sens opposé, l'imitait parfaitement. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire que ça relève de l'instinct. On n'a même pas le temps de la réflexion de voir, ah ben, cette personne, elle marche comme ça. C'est instinctif.
Mais il y avait un type à la télé qui faisait ça.
Pardon?
Il y avait un type à la télé qui faisait ça.
Oui, le caméléon, d'ailleurs, c'est le
voilà,
surnom.
Ouais.
Mais c'est une véritable affection. Donc, Sacks le suit. Et il se rend compte que l'homme va de moins en moins bien, il transpire, etc. Et à un moment, l'homme prend une rue latérale, Sacks le suit, et là, comme s'il était sous un choc électrique, il se décharge de toutes ses imitations et il retourne dans la 5e avenue et fin de l'histoire. Et c'est authentique. Ben, Woody Allen avait fait un film qui s'appelait Zelling sur la normopathie.
Je connais pas du tout ça.
C'est après ça, c'est pas facile. Hein.
Non, voilà. Merci de me laisser le cadeau. Donc du coup, pour revenir un petit peu sur l'invisibilité aussi des réseaux sociaux, parce qu'on l'a un peu évoqué tout à l'heure, moi j'aimerais vraiment revenir là-dessus. Aujourd'hui, enfin, moi j'ai des enfants, je la vois grandir, et je vois cette volonté justement d'être visible à tout prix, hein, des fois. Hein.
C'est joli.
C'est voilà. D'être visible. La peur de l'invisibilité est quelque chose chez les gens à l'enfance. Enfin, quand on là, c'est niveau d'expérience moi-même. De la voix, enfance, elle se pose pas la question. Elle sait qu'elle existe. Elle sait qu'on l'aime. Elle sait que tout ça. Et puis arrive ce moment, ce passage à l'âge adulte où là, la force, enfin l'envie de visibilité. Enfin, on a tous vécu ça à l'adolescence. Prend le pas et là, on fait tout pour le devenir. Finalement.
Mais même avant, parce que les gamins, c'est pareil, ils sont beaucoup là. Tu me regardes, papa, dis, tu me regardes dès qu'ils font un truc. Donc c'est pour être vu à tout prix. Ça commence à ce moment-là, et puis après, ça continue maintenant avec les réseaux sociaux. Mais ça, c'est un phénomène relativement nouveau, les réseaux sociaux.
Bah, pour les enfants, il y a le principe d'individuation qui, de toute façon, oui, est une étape obligatoire et qui passe par la reconnaissance, par le regard de l'autre.
Encore que la visibilité des réseaux sociaux dont on parle depuis tout à l'heure, moi, je ne suis pas vraiment convaincu parce que ça a été abordé. Forcément, on arrive à la fin des utopiales, tout a été abordé. Mais par exemple, les selfies génèrent deux phrases. « Trop belle ma chérie » ou « beau gosse ». Et « trop belle ma chérie » ou « beau gosse », c'est utilisé dans une tranche d'âge qui va du collège à post-bac. Donc, pré-ado ou ado à pratiquement jeune adulte. Et si la reconnaissance sociale, la visibilité, c'est que tout le monde entende pendant 10 ans de sa vie la même phrase, je vois pas trop en quoi c'est convaincant.
Ben, je sais pas avec qui tu communiques sur Facebook, toi. Hein.
Oui, mais il y a des phrases qui sont estampillées, trop belle ma chérie ou quel beau gosse.
Moi, trop belle ma chérie, on me l'a jamais dite.
Oui, bon.
Beau gosse, rarement.
Ouais. Moi non plus. Hein, ça fera plaisir, mais là, c'est carrément. Et maintenant, parce que nous, on est sur Facebook, parce qu'on
parlait des jeunes.
Oui, mais parce que nous, on est des vieux, en fait. Hein, au cas où, on savait pas.
Non.
Je vous assure. Parce que Facebook, en fait, il y a que les vieux dessus, en fait, maintenant. Hein, c'est. Alors moi, j'ai découvert.
Oui, mais j'y vais simplement comme sujet d'étude, évidemment.
Oui, voilà. Mais attends, moi, ce que j'ai découvert depuis maintenant 3 semaines, puisque pour des raisons professionnelles, tout le monde m'a dit qu'il fallait que je sois dessus. Et donc, j'ai demandé à ma fille de 11 ans de m'expliquer. C'est Instagram, où là, c'est carrément, il n'y a plus de texte, il n'y a plus rien, il n'y a plus que la visibilité de l'image. C'est uniquement la visibilité de l'image et de soi. Enfin, 90, je regarde dessus, 99% des photos, c'est des photos justement de soi. Et là, on n'est pas sur des tranches, on va sur des tranches d'âge jeune, mais on va aussi sur des tranches d'âge de plus en plus loin, finalement. Donc,
Bah, tu vois, tous les réseaux sociaux s'usent de toute façon. Donc Facebook, ça a été le premier grand, on va dire, efficace qui a touché toute la planète. Maintenant, il y a Insta, il y a aussi Snapchat, il y a aussi d'autres choses. Voilà. Moi, je sais que mon fils, il a 21 ans. Il est, oui, je sais, je fais pas mon âge. Il a 21 ans et il est.
Mais t'es beau gosse aussi. Ah,
voilà. T'es beau gosse.
Bah, il reste plus longtemps, alors autant que je me gêne pas. Hein. Donc ouais, il a été sur Facebook, mais brièvement, très vite, ça l'a gavé, quoi, Facebook. Et il est passé parce que c'est pas assez instantané. Et puis, au début, ça nécessitait un ordinateur. Maintenant, on peut l'avoir partout sur soi avec un smartphone, mais il préfère de beaucoup Snapchat, c'est son truc principal, en fait. Voilà. En plus, parce que ça a une notion de... c'est éphémère. Voilà. Donc, ça, on peut dire n'importe quoi, ça va disparaître.
Du coup, voilà, on redevient invisible. Voilà. Et alors, justement, est-ce que la loi sur. Je la connais pas très bien, mais sur le droit à l'oubli. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des gens qui se battent pour redevenir invisibles, en tout cas sur Internet et sur le numérique. C'est-à-dire qui ne veulent pas être visibles. Enfin, moi, j'en connais quelques-uns dans mon entourage, pas professionnel, bizarrement, mais personnel. Un jour, je fais une photo de famille, enfin, un truc classique. J'ai un compte perso où j'ai très, très peu de gens, où c'est juste pour partager, parce qu'on a de la famille un peu loin, et voilà, et contrairement à un compte pro. Et même ça, il refusait. C'est-à-dire qu'il me dit, non, je ne veux pas même être sur une photo sur le numérique. Et qui me disait qu'il passait au moins une fois tous les 15 jours sur Internet pour googliser son nom, parce qu'il ne voulait même pas que son nom apparaisse sur Internet.
Oui, mais je remercie toujours les gens quand j'ai posé des questions à des gens sur des sujets dont j'ai besoin pour un roman. J'ai toujours une page à la fin où je remercie tous les gens qui m'ont donné un coup de main. Et un jour, c'était un pilote d'avion qui pilotait un certain type d'avion et j'avais besoin de renseignements. Et je lui ai dit, bon, mais il n'y a pas de problème, je vais vous citer l'orthographe de votre nom exact, c'est quoi. Il m'a dit, certainement pas, mais surtout pas. Mais alors, non, vous pouvez me poser autant de questions que vous voulez, mais je ne veux pas apparaître dedans et ne me faites pas un hommage du style, donnez pas mon nom à un de vos personnages, par exemple. Voilà. C'est vraiment. Il y a vraiment cette recherche d'anonymat, quoi, en fait.
J'ai eu le même problème avec un de mes livres où il y avait de l'iconographie de films d'animation venant d'un pays où les libertés sont pas très très respectées. Donc on va
la Corse.
Peut-être pire, si, je t'assure. Et là, bon, j'ai demandé si il voulait que figurer dans les remerciements de début, parce que je me suis douter que ça pouvait être délicat. Il m'a dit non, là, c'est là que je vais vraiment avoir des problèmes.
Ouais. Oui, donc la visibilité sociale ou l'invisibilité sociale peut aussi entraîner des grandes difficultés. Il nous reste plus qu'un peu moins de 15 minutes.
Ceci dit, un dernier point. En fait, on parle de visibilité, d'invisibilité sociale, mais c'est quelque chose qui dépend complètement de la situation géographique, parce que quand on vit dans un tout petit village et quand on vit dans une grande ville, de toute façon, là, on n'a même plus le choix. C'est simple.
Oui, et puis il y a tout un sujet qu'on n'a pas exploré, là, on manquait un peu de temps, mais c'était, on parlait d'invisibilité, on pourrait parler aussi de l'invisibilité, par exemple, de la représentativité. Est-ce que l'invisibilité, la représentativité, c'est-à-dire l'invisibilité de... Quand nous sommes malheureusement, enfin, on peut pas nier, quatre hommes blancs, donc on a une visibilité sociale sur la télévision. Voilà. Moi, je me rappelle d'un de mes copains, quand j'étais enfin, je l'ai compris, quand on regardait la télé, et qui m'a dit, voilà, j'habitais à Montreuil, mon copain était black, et qui me disait, regarde, ça fait une demi-heure qu'on regarde la télé, une demi-heure ou 45 minutes, ou je sais pas, et comment tu veux que je me sente visible, en fait, voilà, on a besoin aussi pour la visibilité de mettre sur une image qui corresponde.
C'est bien pour ça que les Américains, dans les films, ils ont un quota de gens de différentes ethnies à avoir. Disons, le type, c'est, je sais pas, NCIS, par exemple. Ils ont de tout dedans. Voilà. Bon. Merci beaucoup.
Est-ce que, du coup, il reste un peu de temps. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Parce que, du coup, on a les micros HF, puisqu'ils sont présentement, d'ailleurs, là.
Alors, celui qui lève la main... Allez, posez des questions. Monsieur.
Ouais.
Ouais, c'est moins facile dans cette pièce, en fait. L'accès au micro est moins facile.
Oui, je vois des gens qui sont morts. On n'a pas trop parlé de tout ce qui touche à la religion, en fait, de ce que l'homme n'a pas pu expliquer. Est-ce qu'il n'a pas, depuis toujours, depuis même avant la naissance des religions, les périodes magiques, si on veut, est-ce que l'homme n'a pas cherché à expliquer ce qui l'environnait par l'invisible ? Alors, deux petits exemples, et puis après, je vous laisse répondre. Le week-end dernier, j'étais à un baptême religieux, et une des premières choses que le curé a dit, c'est on fait un acte visible, mais il est là pour le monde invisible. Donc voilà. Et deuxième chose, il y a quelques années, j'ai eu la chance d'assister à un rituel vaudou au Togo. Et effectivement, un esprit invisible est venu et une femme a commencé à rentrer en transe et à dire des choses que seul le prêtre vaudou pouvait comprendre. Personne d'autre dans l'assistance ne comprenait cette langue des esprits, donc de cette entité invisible qui s'était manifestée dans l'assemblée. Voilà.
On a mentionné un petit peu ça quand j'ai parlé de
spiritisme
au 19e siècle. Ouais. Mais effectivement, il y a tout un monde des esprits qu'on ne voit pas, hein, c'est sûr.
En fait, toute l'idée, c'est qu'à partir du moment où il y a deux mondes, même alors qu'ils soient séparés, complémentaires, ou l'un miroir de l'autre, de toute façon, il faut mettre, sinon ça fonctionne moins bien en termes de fictionnel, il faut mettre une séparation et elle se fait par les sens. Donc, et celui de la vue étant quand même le sens le plus important de l'être humain. Enfin, je veux dire, on demande à peu près à n'importe qui ici, est-ce que vous préférez devenir sourd, ne plus sentir d'odeur ou être aveugle ? Le choix va être vite fait, vous allez conserver vos yeux. Donc c'est le sens le plus important et c'est celui qu'on utilise comme outil de séparation.
Mais au contraire, dans la religion, il y a une critique du primat du visible. Saint Thomas, c'est celui qui, au contraire, est le moins convaincu intellectuellement, puisqu'il lui faut des preuves tangibles. Et
qu'il voit.
Alors, concernant la religion, moi, j'aime beaucoup l'anecdote de Talleyrand. Talleyrand était évêque d'Autun, mais il était évêque tout simplement pour gagner l'argent de sa charge. Mais de temps en temps, il devait aller quand même à Autun, se montrer en tant qu'évêque. Et un jour, il était là, ça le faisait suer. Et il y avait dans l'église deux vieilles dames, deux grenouilles de bénitier. Et elle lui disait, écoutez, votre excellence, on doute, on n'est pas bien, on voudrait vous en parler. Puis lui, ça l'énervait parce que évêque, il ne l'était pas. Il lui dit, mais qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que vous avez ? Et ces deux vieilles dames dans l'église lui disent, bon, on croit moins en Dieu. Et pourquoi vous croyez moins en Dieu ? Bah parce qu'on ne l'a jamais vu. Et Talleyrand avait répondu, et mon cul, vous ne l'avez jamais vu. Et pourtant, il existe. Et c'est très, très bien parce que c'est la réponse au primat de la vue. C'est pas parce que vous ne voyez pas quelque chose que c'est invisible. Au début du 4e livre des Principes, Descartes dit j'ai jamais vu la Chine, vu. C'est pas pour autant que je doute de sa réalité. Et c'est pour ça que si un prêtre dit le monde visible, le monde invisible, je suis pas convaincu que ce soit même religieusement une bonne analogie. Mais enfin bon, si les prêtres catholiques étaient habilités à parler de religion, ça se saurait. Hein.
Oui, on a plusieurs questions par ici aussi.
Oui, bonjour. Une notion par rapport à tout ce qui a été abordé et à la question précédente aussi. Est-ce que ce qui est visible ne serait pas défini par nos croyances plutôt que par nos sens ? Je vais étoffer ça.
Ce qui est visible ou ce qui est invisible ?
Ce qui est visible est invisible, les deux. Est-ce que ce qui définit ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas n'est pas corrélé par rapport à nos croyances, dans la mesure où, par exemple, si on prend un petit exercice mental et on se dit que les esprits, les fantômes, tout ça, on pourrait les voir, ils seront là, dans d'autres dimensions, par rapport à ce que vous disiez sur les cités A et B, et par rapport à ce qu'on a l'habitude d'ignorer volontairement ou inconsciemment, et qui serait défini par nos croyances issues de notre éducation et de la norme sociale à laquelle on va s'identifier, se conformer. Par exemple, on prend un enfant qui voit ou qui est persuadé qu'il y a un monstre sous son lit. Et ses parents vont lui dire, non, ça n'existe pas les monstres. Et après, par rapport à l'éducation, par rapport à confrontation avec ses camarades et tout ça, il va être conforté dans cette idée que non, les monstres, ça n'existe pas. Mais finalement, c'est une croyance qui va définir ce qu'il voit ou ce qu'il ne voit pas.
Non, je pense qu'il ne va pas croire que les monstres n'existent pas. Je crois plutôt qu'il ne va pas le dire pour ne pas avoir honte.
Oui, ça peut arriver aussi.
Voilà. Mais oui, je ne sais pas si...
Par contre, c'est quelque chose que je voulais dire tout à l'heure. Il va néanmoins, quand il a peur justement de se faire attaquer par le monstre quand il est dans son lit, il va se rendre invisible. On s'est tous protégés en se mettant sous les couvertures qui permettent de ne plus exister, d'être invisible aux yeux du monstre. Et même, il y avait une nouvelle, je crois que c'était... il y avait une nouvelle de SF comme ça où il y avait des monstres qui étaient créés par l'inconscient d'entre eux et justement en fait la parade ultime c'était de mettre une couverture sur soi. Je me rappelle plus le titre, mais voilà. Je crois que c'était une Frederick Brown et je crois que c'était dans Fantôme de faire fafouille ou un truc comme ça.
Oui, vous parliez tout à l'heure de l'invisibilité sociale, y compris du corps invisible des exclus de notre société. Je voudrais quand même rappeler aux quatre messieurs blancs qui sont sur la scène que toute femme qui avance en âge sait qu'elle devient invisible. À partir de 45 ans, le regard des hommes nous passe à travers. Et ça a été très bien dit, notamment par Ursula Le Guin dans Théanou.
Non, pas des hommes de 80 ans.
Voilà, ce qui souligne mon propos.
Mais c'est valable pour les hommes aussi.
Alors, ouais, ceci dit, moins tout de même, ouais. C'est vrai. Là, il y avait encore ce matin un article dans Le Monde, justement, concernant le rapport d'âge qu'il y a dans les films entre l'homme, qui généralement se retrouve avec 10, 15, 20 ans de plus que la femme, et c'est vrai, l'actrice qui, à partir de 35 ans, 40 à la limite, va devoir plutôt s'orienter vers le théâtre où la distance permet jouer de mieux gérer, ou alors effectivement de se retrouver à changer complètement de rôle. C'est un vrai problème. Il y a une invisibilité sociale, mais qu'il faut changer, quoi, clairement.
Moi, je voudrais simplement vous rappeler le texte de Philippe Willy. The disappearance, la disparition, où toutes les femmes disparaissent. Elles reviennent, mais à un moment, elles disparaissent. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Et puis aussi le texte de Tiptree, The Women Men Don't See, qui a été traduit par la femme invisible ou les femmes invisibles, ce qui me paraît une très mauvaise traduction, parce qu'elles ne sont pas, comme vous disiez tout à l'heure, elles ne sont pas invisibles, simplement les hommes ne les regardent pas, ne les voient pas. Je disais à mon ami là que 45 ans, c'est peut-être un peu beaucoup, c'est peut-être pas gentil en fait, c'est à partir de 50 ou 60 ans. Le Guin a fait ce discours à une convention de science-fiction, WISCON, qui est une convention de science-fiction féministe, où elle avait fait un discours en temps qui commençait par « Je suis le mobile venant de Geriatrica ». Et elle décrivait toutes les façons dont tout changeait pour les femmes à partir de 60 ans ou 70 ans, ça dépend des femmes. Mais effectivement, donc, messieurs, non seulement les blacks, mais les femmes, les verts à pois bleus, les jaunes, les rouges.
Là, par contre, vous voyez, je vous regarde, mais comme j'ai la lumière dans les yeux, je ne vous vois pas, en fait.
Alors,
QFD.
Il y avait aussi la série The Leftovers qui parle plus de l'absence que de l'invisibilité, qui est une super série télé en trois saisons, où du jour au lendemain, une partie de la population disparaît, il n'y aura pas d'explication, et les gens doivent vivre avec cette absence qui est d'autant plus présente que les gens ne sont pas là. C'est le deuil, la souffrance, et c'est une belle métaphore autour de l'invisibilité.
D'ailleurs.
Bonjour.
Bonjour.
Un peu sur le même thème. En fait, c'est pas à partir de 45 ans qu'on disparaît. C'est bien plus tôt. Moi, personnellement, récemment, j'ai disparu au profit de mon stagiaire.
Oui.
Parce qu'on parlait de science-fiction, on parlait de mon entreprise. Et le client qui était en face de moi, qui avait 25 ans, ne me regardait pas. si ponctuellement il se demandait pourquoi moi je parlais et pas mon stagiaire à côté. Donc le problème, c'est que c'est pas juste qu'on n'est pas représenté, c'est que quand on est là, sur certains sujets, on ne les écoute pas non plus. Et donc on disparaît.
Il y a des avantages, des inconvénients. Je suis sûr qu'il y a plus d'inconvénients que d'avantages. Hein. Par exemple, quand vous allez, je sais que c'est le cas avec ma compagne, vous allez au garage pour faire réviser la bagnole, et si je ne suis pas passé avant sur la voiture pour lui dire non, tu ne changes pas les bougies, tu ne changes pas les trucs, elle reviendrait avec une note de malade parce que tout simplement, ce n'est pas crédible qu'une femme sache qu'il n'y a pas besoin de changer les bougies tous les 12 km.
Donc dans le médical, c'est pas mieux non plus. Hein. J'ai dans une vision antérieure, il y a très longtemps, j'ai fait quelques années d'élève infirmier. Le nombre de fois que je rentrais avec l'interne femme, et moi j'étais élève infirmier en première année, et que le patient, c'est ça qui me faisait plus mal, ou la patiente, parce que c'est ça en fait. Je me rappelle être arrivé dans cette chambre je l'avais l'infirmier, on avait les mêmes blouses, il y avait des badges, mais la plupart des gens ne regardent pas la badge. Et que la patiente devant moi ne regarde pas l'interne, qui est une femme, ne me parle qu'à moi.
Docteur.
C'est ça, docteur. Je suis l'infirmier. Alors, on l'avait déjà vu 10 fois, 15 fois, en effet, devant l'homme qui passe comme ça, mais ça m'avait fait encore plus étrange de le voir dans les yeux d'une femme, d'avoir cette même réaction dans les yeux d'une femme.
Un docteur, une infirmière.
Une autrice.
On dit doctoresse maintenant.
Non mais tu vois, c'est ça le problème, quoi. C'est le
auteur, autrice, etc.
Bon, c'est l'heure. Merci beaucoup.
Merci.